Radio Classique, les spécialistes.
Et avant les spécialistes, un petit peu de musique parce que nous avons un petit problème technique pour joindre notre correspondant, le correspondant des Échos en Ukraine. Je vous propose de rendre hommage à celui qui a composé la musique du dernier empereur. Le dernier empereur, musique signée Ryuichi Sakamoto, Oscar en 1988 qui nous a quittés. Et nous lui rendrons hommage tout au long de cette matinale. Mais je crois que nous sommes en ligne avec l'Ukraine. Direction Boutcha tout de suite.
Bonjour.
Grand reporter, correspondant des Échos en Ukraine. Vous aviez découvert ces massacres il y a un an. Est-ce qu'il y a une image que vous gardez en mémoire, une image qui vous hante peut-être encore?
Effectivement, je pense que le 31 mars, à l'annonce en fait par le maire de Irpin, que la ville de Irpin et de Boutcha, donc dans la banlieue de Kiev, avait été libérée, je me suis rendu avec mon collègue Luc Cortel, justement à Irpin, et en l'espace d'à peu près une heure de travail là-bas, on avait été escorté par les forces spéciales ukrainiennes, puisque eux nous avaient dit que finalement la ville n'avait pas été totalement libérée à ce moment-là. En l'espace d'une heure de travail, on a vu les corps de 6 civils tués dans les rues, potentiellement soit par des obus, soit abattus. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que véritablement j'ai pris conscience de la réalité non seulement de la guerre, mais de l'occupation russe et de potentiellement ce qui allait nous attendre dans d'autres villes qui seraient libérées des forces armées russes.
Que représente Boutcha pour les Ukrainiens? C'est un traumatisme?
Je pense que c'est un traumatisme. Je pense que c'est surtout un symbole, en fait, de la violence de l'invasion. Mais je dirais que pour beaucoup d'Ukrainiens, ils ont évidemment été choqués hein, par la découverte de ces scènes. On pense à ces corps, aux mains attachées dans le dos qu'on a retrouvés dans les rues. C'est évidemment un choc et un symbole, mais pour beaucoup, ce n'était pas surprenant, en fait, puisque la rhétorique russe depuis des mois, depuis des années vis-à-vis de l'Ukraine, mais particulièrement dans les semaines et les mois qui ont précédé l'invasion, était une rhétorique quasiment annihilatrice, en fait, génocidaire. Lorsqu'on repense au fait que Poutine écrit une sorte d'essai pour dire que historiquement, les Ukrainiens et les Russes ne sont qu'un seul et même peuple et qu'ils nient l'identité même et l'existence même de la nation ukrainienne. Malheureusement, en fait, lorsque des discours sont génocidaires, ensuite, les actes qui les suivent, tôt ou tard, ont la même nature. Je pense que pour beaucoup d'Ukrainiens, en fait, Boutcha, ça a été un choc, mais ça n'a pas été une surprise. Et au contraire, ça a même été vu comme un moment où ils se sont dit, en fait, aussi, peut-être que c'est maintenant, enfin, que la communauté internationale va prendre conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer en Ukraine.
Zelensky le répète, hein, depuis un an, il veut punir les coupables. Des enquêtes sont menées, justement, depuis un an, par la communauté internationale, avec notamment des gendarmes français.
Oui, effectivement, il y a quelques mois de cela, en fait, j'avais interviewé l'ambassadeur français en Ukraine, Étienne de Poncin, qui m'avait parlé justement d'une mission de gendarmes français qui venait en Ukraine pour participer à l'enquête, aux investigations, et aussi pour aider et former leurs collègues. On a également envoyé du matériel, en fait, une sorte de laboratoire mobile pour réaliser des analyses ADN. Donc c'est très important, évidemment, que la France et que les pays alliés de l'Ukraine, généralement, envoient un soutien aussi à ce niveau-là, et pas uniquement un soutien militaire et économique. Je pense que la décision par la Cour pénale internationale d'émettre un mandat contre Vladimir Poutine, justement pour de potentiels crimes de guerre, est aussi un symbole extrêmement important. Il faut montrer que la justice suit son cours à ce niveau-là. Cependant, je ne suis pas particulièrement optimiste sur les résultats qu'on devrait en attendre.
Je rappelle, Guillaume Tak, que vous êtes en direct d'Ukraine, dans la région du Donbass. Tous les chefs d'État, tous les chefs de gouvernement étrangers qui se rendent en Ukraine vont ensuite à Boutcha, se rendent à Boutcha. C'est, j'allais dire, un passage obligé.
Je pense clairement que c'en est un, effectivement. Ne serait-ce que parce qu'en fait, les villes de Boutcha, de Irpin, de Borodianka, donc ces villes de la banlieue de Kiev, évidemment, des efforts de nettoyage ont été ont été entrepris, mais la reconstruction pour la plupart dans ces villes-là n'a pas encore commencé. Et je pense que c'est le meilleur moyen en fait d'illustrer le caractère véritablement barbare et meurtrier de l'invasion russe. C'est déambuler à Boutcha et se remémorer les scènes justement de ces corps, voilà, ligotés dans la rue. C'est aller à Irpin et voir le cimetière devant lequel on a accumulé des dizaines voire des centaines de véhicules calcinés, de voitures de civils qui ont été brûlés lors des combats et des bombardements. Ou c'est déambuler dans Borodianka et voir des barres d'immeubles qui ont été éventrées en fait par les bombes russes. Même si la vie évidemment se poursuit et a repris dans ces villes-là, je pense que effectivement c'est sans doute le meilleur moyen de prendre conscience de la nature véritablement de cette guerre. Car pour beaucoup de ces chefs d'État, lorsqu'ils se rendent pour la première fois en Ukraine, ils ont évidemment conscience qu'il y a une guerre qui se joue en Ukraine, mais en avoir une conscience à travers les médias et à travers des échanges avec leurs homologues ukrainiens, et puis ensuite il y a la voir de ses propres yeux, et je pense que c'est très important aussi. C'est un passage obligé, c'est tragique, mais à mon sens c'est également nécessaire.
Guillaume Tak, en Europe de l'Ouest, on parle beaucoup d'une prochaine offensive ukrainienne. Vous qui êtes dans le Donbass, au cœur des combats, est-ce que vous sentez également cette montée en puissance des Ukrainiens et cette envie de repasser à l'offensive en quelque sorte?
Alors je pense que l'envie, elle est très clairement présente. Il y a quelques jours de ça, je me trouvais sur les tranchées à Toretsk, où les soldats de la 24e brigade mécanisée font face à aux forces russes à un kilomètre ou un tout petit peu plus d'un kilomètre de distance. Et donc ces soldats qui sont chargés de tenir la ligne face aux assauts russes appellent de leur vœu cette contre-offensive. Ils savent que leur gouvernement en parle, ils savent que des choses se préparent. Cependant, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Le premier, c'est que Vladimir Zelensky lui-même déclarait que, en gros, il faudrait plus d'armes fournies par les pays occidentaux à l'Ukraine avant de pouvoir passer à l'offensive, parce qu'il disait lui-même qu'il ne voulait pas envoyer ses braves soldats à l'assaut sans tanks, sans lance-roquettes multiples, sans véhicules blindés. Donc ça, c'est un des premiers facteurs. Et le deuxième aussi, c'est la question de la météo, tout simplement, en fait. Il y a des pluies assez violentes et assez régulières qui se sont abattues ces derniers jours sur le Donbass. Et pour en avoir fait l'expérience dans les tranchées, ça fait de la terre du Donbass une sorte de boue visqueuse qui s'agrippe à vos chaussures, vous ralentit dans vos déplacements, vous fait trébucher. Et par conséquent, la contre-offensive, elle est évidemment attendue. De toute façon, c'est la nature même d'une guerre, du fait qu'il y ait des périodes, en fait, où l'un des deux côtés pousse, et lorsqu'il arrive, on va dire, au bout de ses forces, que ses forces culminent, c'est à l'autre de prendre l'initiative. Donc on sait qu'une contre-offensive va prendre place, et on ne sait pas où est-ce qu'elle prendra place. Et généralement, l'état-major ukrainien est assez bon et assez doué pour laisser planer le doute. Donc les Ukrainiens, et les soldats ukrainiens en particulier que j'ai rencontrés, évidemment, espèrent tous la contre-offensive, mais pour le moment, on n'a pas de date définie encore.
Merci Guillaume Tak d'avoir été ce matin en ligne sur Radio Classique. Guillaume Tak, en direct du Donbass, le correspondant des Échos en Ukraine. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc, et ce matin, un procès qui débute aujourd'hui à Paris, un procès pour un attentat commis il y a 43 ans. Marc, dans un peu moins de 2 minutes, 7h48 sur Radio Classique.